Vous écoutez On lit pour vous.
La thérapie au secours des couples, un texte commandité, paru le 8 mai 2025 dans la presse. La thérapie conjugale est-elle une démarche de dernier recours? Pas du tout, selon les experts. Les couples qui traversent une phase difficile ont tout intérêt à consulter plus tôt que tard. Voici 9 signes précurseurs indiquant qu'il est peut-être temps de demander de l'aide professionnelle. 1. Les conflits finissent souvent par dégénérer. La saine gestion des conflits constitue l'une des clés d'une relation durable. Quand les partenaires ont du mal à communiquer dans le respect, l'aide d'un professionnel peut tout changer dans la mesure où les deux personnes sont réellement investies d'un désir d'apprendre à mieux gérer leurs différends. Le saviez-vous? Il existe plusieurs types de thérapie conjugale. Parmi celles-ci figure la thérapie axée sur l'émotion. Cette approche permet au couple de se pencher sur les besoins émotifs non comblés qui génèrent des conflits. Quant à la thérapie cognitivo-comportementale, elle mise sur la communication efficace en invitant les partenaires à cerner et modifier les schémas d'interaction négatifs. 2. La communication n'est pas optimale. De mauvaises habitudes de communication peuvent entraîner des malentendus, du ressentiment et une distance émotionnelle, autant de signes qui risquent de mener le couple au bord du gouffre. Certains thérapeutes utiliseront une variété d'exercices pour permettre aux partenaires d'améliorer leurs aptitudes à bien communiquer et à cultiver l'empathie l'un envers l'autre. 3. Une distance émotionnelle est en train de se créer. Lorsqu'une personne se sent émotionnellement déconnectée de la relation, ce n'est jamais bon signe. En ce sens, le thérapeute sera à même d'aider le couple à explorer les barrières émotionnelles, à rétablir l'intimité et à renforcer les liens. 4. La confiance est ébranlée. Une confiance rompue dans le couple est susceptible d'engendrer de l'insécurité, des doutes et du stress. Les problèmes de confiance peuvent découler d'expériences personnelles passées ou de comportements actuels dans une relation, comme l'infidélité. 5. Les blessures du passé reviennent hanter le couple. Il ne faut pas sous-estimer les répercussions des problèmes passés non résolus sur la capacité d'une relation à aller de l'avant. Dans une telle situation, le thérapeute encouragera le couple à tenter de comprendre le point de vue de l'autre tout en explorant des pistes de solutions. 6. L'intimité est affectée. Pas de mystère ici. Le manque d'intimité est souvent à l'origine de frustrations et de tensions. Puisqu'il s'agit souvent d'un sujet délicat, aborder ces questions avec l'aide d'un professionnel peut aider les couples à surmonter cette épreuve. 7. Un gros changement vient bousculer la routine. Déménagement, naissance d'un enfant, perte d'emploi, les grandes transitions de vie provoquent parfois des tensions. Ces changements peuvent entraîner un stress qui, à son tour, est susceptible de nuire à la relation. 8. L'éducation des enfants devient une source de conflits récurrents. Il n'est pas toujours facile de s'entendre sur l'éducation des enfants. Quand les parents ne partagent pas la même vision et que les mésententes deviennent de plus en plus fréquentes, une thérapie s'impose. En développant une approche unifiée, tous les membres de la famille seront en mesure d'en bénéficier. 9. Les problèmes financiers minent la relation. Les conflits financiers font partie des problèmes les plus courants dans un couple, parce qu'ils peuvent affecter autant la confiance mutuelle que la communication et le sentiment de proximité. Il est important de ne pas laisser la situation s'envenimer. Autrement, c'est la relation dans son ensemble qui finira par être lourdement hypothéquée. C'était « La thérapie au secours des couples », un texte commandité paru le 8 mai 2025 dans la presse.
Ouvre ta caméra. Un texte de Maude Goyer, paru le 5 mai 2025 dans la presse. Bien qu'elle soit devenue quotidienne et banale, les réunions en visioconférence en télétravail n'ont pas d'étiquette claire ou de règles préétablies. Un point semble faire l'unanimité. Les rencontres à distance devraient toujours se faire avec la caméra allumée. Toutefois, les exceptions existent. C'est insultant et ça manque de respect. Chloé Simard, 36 ans, est chargée de projet en environnement. Elle travaille à 100% de la maison et passe la majorité de ses journées en Zoom. Elle déplore que certains de ses collègues n'allument pas leur caméra en réunion. « Certains ne le font jamais », lance-t-elle, « et ma patronne ne dit rien. Je trouve ça plate et frustrant. On n'a pas la même lecture, on n'a pas les mêmes échanges lorsqu'on ne voit pas la personne. » Elle n'a pas tort. Selon François Courcy, professeur de psychologie à l'Université de Sherbrooke, 55 à 58% de la communication passe par le non-verbal. Le ton de la voix, lui seul, représente 38% de la communication. Ça part mal si la personne ne parle pas pendant la rencontre et qu'on ne la voit pas, dit-il. Règle claire. Sans ces infos, cruciales pour bien communiquer, l'interlocuteur ne peut ajuster son discours. Idéalement, les caméras restent toujours allumées pendant les réunions afin que tout le monde puisse se voir. Dave Saint-Amour, professeur au département de psychologie de l'UQAM, est du même avis. Il croit qu'une réunion en présentiel est toujours préférable, mais si elle se fait à distance, elle a avantage à être bien préparée. Ce que ça signifie? Tout d'abord, que les règles soient annoncées. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas, demande-t-il. Ça doit être clair et limpide pour tout le monde. Est-ce qu'il est dit qu'on souhaite que les caméras restent ouvertes? Les réunions en visio ne doivent pas être trop longues, rappelle M. Saint-Amour. Après chaque heure ou heure et demie, on devrait s'accorder 10 minutes de pause, dit-il. Aussi, pendant la réunion, si on veut se lever, s'étirer, se moucher, on peut éteindre momentanément, c'est pour notre bien. Pause mentale. Il précise que le cerveau a besoin de repos cognitif. En réunion sur Zoom, les travailleurs se sentent observés dans une sorte d'état d'alerte constant, comme s'il fallait être prêt à réagir en tout temps. On est tous un peu parano, commente-t-il. Notre cerveau va assumer qu'il y a toujours au moins une personne qui nous regarde. On reste donc sur la sellette. On a tendance à interpréter tous les petits signes, à tomber en hypervigilance. L'attention n'est pas éternelle, souligne Dave Saint-Amour. En moyenne, notre cerveau reste attentif sur une tâche de façon soutenue et efficace, de 20 à 30 minutes. Garder sa caméra allumée pendant la réunion en visio, c'est aussi une affaire de culture d'entreprise. Si tout le monde le fait, c'est plus embêtant d'éteindre. Vie privée. Il existe quelques bémols, croit François Courcy. Par exemple, si quelqu'un mange ou a une limitation technologique, mauvaise connexion, aucun ordinateur accessible, etc., ou encore, si la réunion se tient en dehors des heures normales de bureau. Il faut s'ajuster, dit-il. Je pense que c'est important de rester flexible et de respecter la vie privée. Selon lui, le discernement et le jugement sont importants. Les attentes doivent être nommées et, idéalement, c'est l'animateur de la réunion qui les annonce en début de rencontre. L'enjeu d'être visible ou non à l'écran dépend aussi du format et de l'objectif de la réunion. Si c'est une conférence où 100 personnes sont en ligne, c'est différent, croit M. Courcy. On n'a pas à être à l'écran. C'est aussi lié au sujet. Par exemple, dans une conférence sur la santé mentale et le suicide impliquant 60 personnes, personne n'avait ouvert sa caméra. Ça ne marche pas. On a l'impression de parler dans le vide pour un sujet délicat. En bref, si la rencontre est bidirectionnelle et qu'il y a des échanges, il est avisé que tous gardent leur caméra allumée. Se regarder à l'écran. Un truc à explorer. Choisir un mode où seule la personne qui parle apparaît à l'écran ou encore où chaque participant apparaît dans une fenêtre de grosseur égale. Cela enlève un peu de pression à ceux qui assistent à la réunion. Et pour en finir avec la dysmorphie, soit le fait de se préoccuper des défauts perçus de l'apparence physique qui ne sont pas visibles ou très peu par les autres, Dave Saint-Amour suggère de fermer la fenêtre où on se voit constamment. On peut se regarder et dire bonjour, mais après, on ferme. Ce n'est pas naturel d'avoir un effet miroir et de se voir soi-même tout le temps. C'était « Ouvre ta caméra », un texte de Maude Goyer paru le 5 mai 2025 dans La Presse.
Le pape vert. Un texte de Mathieu Perrault paru le 21 avril 2025 dans La Presse. François a été le premier pape à consacrer une encyclique entière, soit un message marquant, émanant de la papauté, à l'environnement. Ce faisant, il a fait progresser la doctrine environnementale de l'Église, inaugurée sous Paul VI. François est le premier à parler d'écologie intégrale, de la nécessité de préserver la planète comme création de Dieu, explique le dominicain Thomas Michelet, qui enseigne à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, Angelicum, à Rome, et a publié en 2016 le recueil « Les papes et l'écologie ». Avant lui, Benoît XVI était connu comme le pape vert, mais il parlait d'écologie humaine, des besoins de l'humanité. L'encyclique Laudato Si, Loué sois-tu, en 2015, tire son titre d'un passage d'un cantique de saint François d'Assise qui, au XIIIe siècle, a célébré la nature comme création divine. Ça fait 50 ans que les papes parlent de pollution et de la nature, mais il a fallu attendre François pour avoir un texte papal marquant sur l'écologie, dit le frère Michelet. Il nous dit que nous avons une dette envers les générations passées qui nous ont légué une société et une nature riches et que nous devons les transmettre aux générations futures. Ne pas gaspiller toutes les ressources. Laudato si a même une petite saveur québécoise. En 2014, Norman Lévesque avait publié un livre de pastorale environnementale, Prendre soin de la création. Il l'a envoyé au pape, qu'il a transmis au comité de rédaction de Laudato si. Il y a un paragraphe de mon livre dans Laudato si, dit M. Lévesque, qui a dirigé pendant une dizaine d'années un réseau d'action environnementale écuménique canadien, Église verte. Église verte aidait les églises à installer des panneaux solaires ou de la géothermie, à recycler et à composter, ou encore à faire des jardins communautaires sur les terrains paroissiaux. L'encyclique de 2015 a inspiré quant à elle le mouvement Laudato Si, une ONG internationale qui aide les communautés catholiques dans les projets environnementaux. Droite et gauche. François a fermement ancré l'écologie dans la vie de l'Église. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'écologie était à droite, dit le frère Michelet. Pétain disait « La terre ne ment pas ». Mais par la suite, elle a été confondue avec le pacifisme, notamment sur la question nucléaire. Il y a aussi une idéologie de la décroissance et de la dénatalité chez certains environnementalistes. Alors, il y a encore des catholiques qui sont allergiques à l'écologie. Et pourtant, soutient Thomas Michelet, la Bible parle de la sacralité de la nature depuis plus de 2000 ans. Chaque créature est un message de Dieu. Paul VI a lancé l'environnementalisme catholique moderne avec un discours sur la pollution à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 1970. Lors de son discours précédent à la FAO, en 1965, il n'avait évoqué que la lutte contre les famines. Jean-Paul II a aussi abordé la pollution et la surexploitation de la nature dans plusieurs textes, selon le frère Michelet. Mais c'est Benoît XVI qui, en s'appuyant sur une tradition naturaliste allemande pluriséculaire, a vraiment formé un embryon de doctrine environnementale catholique. Benoît XVI parlait d'écologie humaine, de la nécessité pour le développement de l'homme d'avoir un environnement physique et affectif adéquat. Il s'opposait à ceux qui réduisaient l'homme à son porte-monnaie. Tout ça faisait un peu « greenwashing ». François porte l'idée qu'il faut protéger les ressources du monde et mieux les partager, et que chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est un message de Dieu qui disparaît, explique le dominicain français. Extrait de Laudato Si. La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. C'était Le Pape Vert, un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 avril 2025 dans La Presse.
Des enfants détenus des semaines aux États-Unis après avoir été retournés par le Canada. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. Le Canada renvoie de plus en plus de demandeurs d'asile vers les États-Unis et ils y sont détenus de plus en plus systématiquement, y compris des familles avec de jeunes enfants. En voulant fuir un pays qui devient plus dangereux pour elles, ces familles se retrouvent remises aux mains des autorités migratoires américaines par les services frontaliers canadiens. Certaines devraient pourtant se qualifier pour demander l'asile en vertu des exceptions prévues à l'entente sur les tiers pays sûrs, selon leurs avocats. Le Canada se rend ainsi complice du durcissement des politiques au sud de la frontière, soutient l'avocate en immigration Heather Neufeld, qui représente une famille. Ces cas se multiplient depuis quelques semaines. L'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, affirme avoir renvoyé 1281 demandeurs d'asile vers les États-Unis, soit le nombre le plus élevé en une décennie, nous écrit une porte-parole. Parmi eux, des enfants de 6 et 8 ans du Venezuela détenus durant 3 semaines dans une pièce au mur nu et sans fenêtre, puis 3 autres semaines dans un centre au Texas. Les enfants ne me parlaient que de retourner à l'école. Ils voulaient tellement sortir, dit Laura Flores Dixit, avocate pour leur famille et l'organisation American Gateways. Ils pourraient être soumis à une expulsion vers leur pays d'origine, ce qui n'aurait pu arriver au Canada, car le Venezuela est considéré comme trop dangereux pour qu'on y renvoie des ressortissants. Un autre cas, cette fois, un homme du Yémen, qui venait rejoindre son frère et son fils de ce côté-ci de la frontière, et pour qui l'agent frontalier canadien n'a tout simplement pas cru les papiers de filiation, décrit Stéphanie Valois, coprésidente de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Des refoulements injustifiés? Autre cas encore, les filles Dara Sully, âgées de 4 et 14 ans, originaires du Salvador, ont bel et bien aperçu le Canada, mais c'était à travers une fenêtre dans un corridor du centre de détention. La famille n'est sortie de la chambre sans fenêtre que 3 fois durant les 2 semaines de son enfermement. On essayait de jouir avec la plus petite, mais il n'y avait pas de jouet. On jouait à la cachette, mais le seul endroit pour se cacher était entre les draps, relate la mère dont nous taisons l'identité complète parce qu'elle craint pour sa sécurité. L'avocate de la famille, Mme Neufeld, décrit ces conditions comme « un isolement cellulaire familial » et parle de nourriture de piètre qualité servie en petite quantité et d'une douche de camping sous forme de sac. Arasley avait pourtant la chance d'avoir un frère qui est citoyen canadien, et elle se qualifiait donc pour demander l'asile ici, en vertu des exceptions à l'entente sur les tiers pays sûrs. Après plus d'une décennie sur le territoire américain, elle avait toujours renoncé à essayer de se régulariser, de peur de se dénoncer elle-même aux autorités. « J'avais toute la documentation, alors je n'avais jamais imaginé qu'ils allaient nous refuser et nous enfermer », relate-t-elle. L'agent frontalier canadien n'a pas été convaincu par les papiers présentés. L'écart principal est que le père d'Arasoli porte un seul nom de famille sur son certificat de naissance, mais qu'il y en a 2 sur celui de son frère, comme c'est la coutume chez les latino-américains. Son frère était de l'autre côté des murs du bâtiment de l'ASFC, si proche et si loin, mais il n'a pas été appelé pour témoigner ou présenter d'autres preuves. Il faudrait au moins avoir accès à eux quand ils sont dans cette pièce, souligne Maître Neufeld, du moins avant qu'ils ne soient remis et enfermés par les autorités américaines. Des recours inaccessibles. Aux yeux de Maître Valois, l'exemple de son client yéménite illustre une application de l'entente de plus en plus stricte à l'heure où plusieurs appellent le Canada à s'en retirer, ne considérant plus les États-Unis comme un pays sûr. La question a déjà été soumise à la Cour suprême qui a maintenu l'accord bilatéral en invoquant les soupapes de sécurité existantes sur le sol canadien. Mais ces soupapes existent surtout en théorie, expose Maître Valois, puisque les décisions de renvoi de demandeurs d'asile sont extrêmement difficiles à contester. Maître Neufeld a elle aussi présenté une demande de reconsidération à grand renfort de déclarations sous serment, d'avis d'experts jusqu'au Salvador, accompagnés notamment des certificats originaux certifiés par des autorités de ce pays. Nous croyons avoir une demande extrêmement forte. La réponse de l'ASFC est revenue en une ligne et sans indication sur ce qu'elle avait trouvé insuffisant, indique-t-elle. C'est donc en Cour fédérale qu'elle espère maintenant obtenir une révision. Mais le processus peut prendre plusieurs mois, ce qui n'est pas un recours efficace à ses yeux, d'autant plus que maintenant, les États-Unis cherchent à expulser les immigrants plus rapidement que jamais auparavant. Aucune option n'a été présentée à la famille des enfants de 6 et 8 ans, originaires du Venezuela, qui a été transférée vers le centre de détention de Karnes, au Texas, un endroit connu pour ses mauvaises conditions, dont une eau de qualité notoirement terrible, rapporte son avocate Laura Flores Dixit. Je peux vous confirmer que plusieurs familles ont été dans des situations similaires, ajoute quant à lui Javier Hidalgo, directeur juridique de RACES, une importante organisation de services juridiques du Texas. Contexte bilatéral. L'ASFC affirme quant à elle examiner chaque demande d'asile à la frontière avec attention, y compris par une entrevue, afin de décider si elle est recevable. Dans le cas contraire, la personne est généralement renvoyée aux États-Unis le jour même de la décision, nous écrit un porte-parole. Cette instance ne commente pas les cas individuels. L'ASFC remet alors ces personnes entre les mains du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, abrégé en CBP en anglais. Au seul pont Ambassador, qui relie Détroit au Michigan et Windsor en Ontario, une douzaine de familles auraient été détenues par CBP, selon l'organisation américaine ACLU. Au total, plus de 200 personnes auraient été détenues depuis janvier 2025, a avancé en conférence de presse la représentante au Congrès, Rachida Tlaib. Plusieurs avaient emprunté le pont sur la frontière par erreur, une situation distincte de celle des demandeurs d'asile. Le problème, a ajouté Ruby Robinson, avocat pour le Michigan Immigrant Rights Center, est que la détention par CBP est une boîte noire où les avocats ont difficilement accès aux détenus. Ces installations près de la frontière canadienne étaient généralement réservées à des détentions de moins de 72 heures, ce que confirment les normes envoyées par courriel au devoir par l'instance CBP en question. Mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque une rupture avec la pratique consistant à relâcher les demandeurs d'asile « catch and release » en attendant la suite des procédures. Il faut donc plus de places de détention, même si elles ne sont pas adaptées aux familles. Encore plus d'incertitudes. On attendait la nuit pour pleurer avec mon mari, pour ne pas que nos filles nous voient et se découragent, relate Arasley. Les parents espéraient fuir le raz-de-marée des expulsions de Trump et, la cadette étant née sur le territoire américain et étant citoyenne, ils voulaient éviter à tout prix une séparation. Mais ce fut tout le contraire, a expliqué la mère en entrevue avec Le Devoir plus tôt cette semaine. Le 1er avril 2025, elle a pu sortir en portant un bracelet de surveillance électronique à la cheville et avec ses filles. 3 minutes pour lui dire au revoir et elle verrait son mari transféré dans un autre centre de détention, celui-là géré par l'Immigration and Customs Enforcement, où il attend à ce jour une décision. C'était des enfants détenus des semaines aux États-Unis après avoir été retournés par le Canada. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.